En Chine, la reconversion du complexe industriel de Tashenzhou à Pékin a donné naissance à la première zone chinoise dédiée à l'art contemporain, le 798. Pour découvrir l'ambiance et l'histoire de ce lieu, pionnier en la matière, je vous propose ce reportage au cœur du Titiopa, ce district dédié dorénavant au commerce et au tourisme culturel.
Bonjour, je m'appelle Lucie Parola, donc je suis française et je vis à Pékin. Je suis manager d'un studio à Pékin de post-production pour des films. Donc notre activité se sépare en trois parties. Nous avons une partie production, donc nous réalisons des films, nous faisons de la post-production, des effets spéciaux, du sous-titrage. Puis en parallèle, nous avons deux autres activités. La création d'ateliers pour former les gens à faire de l'édition eux-mêmes, apprendre à leur faire du graphisme, de la photographie. Et puis nous avons aussi des événements comme des expositions, des projections de films et toutes sortes de choses de ce type.
Votre installation ici à Titiopa, ça a un sens, hein ?
Oui, bien sûr. Cette installation fait partie du Festival Croisement et donc a été réalisée par Lynn Pook, qui est une artiste qui travaille sur le toucher et sur l'audio associés ensemble. Donc l'idée, c'est qu'on a depuis quelques décennies une séparation qui se fait entre l'individu et l'art due à des médias. Donc par exemple, les gens vont venir dans une galerie pour observer quelque chose, mais n'ont pas d'interaction, n'ont pas d'application directe sur eux-mêmes. Ici, l'idée, c'est que l'œuvre d'art touche le public et le public rentre en contact directement. Donc c'est quelque chose qui nous a vraiment intéressé.
Donc c'est une relation, où les sens sont mis à l'épreuve ?
Oui, tout à fait. Je pense que le principe, c'est aussi que dans la société actuelle, et c'est aussi ce que l'artiste dit elle-même, il y a un certain sens du tabou qui reste accroché au corps. Et en fait, elle voulait justement jouer sur ce côté-là où les gens se faisaient toucher, avaient un rapport plus primitif à leur corps, quelque chose qu'ils ont sûrement perdu de nos jours.
Donc cette installation, elle est relativement technique, hein. On parle de toucher, mais c'est un toucher informatique, électronique, électrique.
Mm-hmm. Oui, alors c'est en fait, ça marche par un système de vibration. Sur plusieurs points vitaux du corps, on pose des haut-parleurs. Et en fait, les haut-parleurs émettent des vibrations qui vont faire ressentir au corps et qui vont se transmettre par les os. Donc il n'y a pas de système électrique dedans, et je pense que c'est mieux dans l'absolu, mais ouais, donc c'est assez technique en général.
Vous pouvez rappeler le nom de votre société ?
La société s'appelle Lumalu.
Et c'est une société chinoise ?
Non, alors en fait, le fondateur est anglais. En fait, si vous voulez, Lumalu, le nom est un mélange de chinois et du monde occidental. Luma, ça vient de lumen, donc le terme technique pour désigner la lumière. Et Lu, donc c'est la quatrième déesse chinoise qui désigne la prospérité. Donc voilà, ce qu'on voulait transmettre à travers ça, c'est le fait que on est une compagnie occidentale bien sûr, mais qui veut se mêler au monde chinois.
Donc vous êtes française. Comment vous êtes intégrée à ce projet en tant que française ?
En fait, j'ai commencé il y a à peu près un an. À les aider en fait sur un projet, ils cherchaient des volontaires pendant la Design Week de Pékin de l'année dernière pour un grand projet de petit documentaire où on suivait des gens dans les Routongs et on essayait de mêler le présent et le futur, retrouver les souvenirs du passé pour les faire ressurgir sur le présent puisqu'il y a des histoires absolument fabuleuses qu'on a découvertes dans ces Routongs. Donc je suis rentrée dans Lumalu en tant que traductrice pour aider à faire la médiation et puis voilà, très vite ça a avancé et puis j'ai commencé à m'intégrer dans les projets d'atelier, dans la production et donc voilà, l'aventure a commencé comme ça. Avant de travailler pour Lumalu, je travaillais sur le Cao Changdi Photo Spring. Donc c'est un festival de photographie qui a eu lieu pendant 3 ans de suite, qui est en partenariat avec les Rencontres d'Arles. Et donc j'ai participé à deux années de suite. Et donc du coup, évidemment, j'étais très souvent à Titiopa et dans d'autres districts d'art dans Pékin.
Comment vous voyez l'évolution du lieu Titiopa ?
C'est assez compliqué. Je pense que quand on arrive pour la première fois à Titiopa, il y a un côté assez merveilleux, il y a des galeries de partout, c'est tout propre, il y a des magasins, ça brille. Puis finalement, très vite, on se rend compte que Titiopa a un côté très superficiel et faux. Et c'est vrai que je préfère mille fois, par exemple, Cao Changdi, qui est un village juste à côté de Titiopa, qui est beaucoup plus vrai, où il y a vraiment encore des artistes, des galeries de qualité. quand on sent que Titioba, on voit tous les jours des galeries qui se ferment, qui se transforment en magasins, des cafés, et on sent que l'évolution avance vers Nanluoguxiang, donc un autre endroit de Pékin, où on ne trouve plus que des magasins maintenant.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Je m'appelle Julia Proust.
Et donc, vous avez connu toute l'histoire de Titioba ?
J'ai travaillé et j'ai déjà donné une visite guidée de l'espace pour un groupe d'étudiants internationaux en MBA. Et c'est surtout pour ma curiosité personnelle parce que je trouve l'endroit vraiment intéressant.
Donc, pour résumer, on va dire que c'est une friche industrielle. Au départ, il y avait des industries installées. On voit d'ailleurs toutes ces usines qui sont, j'allais dire, encore installées, debout, presque en état de fonctionner.
Ouais, il faut savoir que c'est le premier exemple de patrimonialisation en Chine, mais de patrimonialisation de patrimoine industriel. Ça n'avait jamais été fait avant cet exemple-là, et ça s'est fait grâce à une personne en particulier qui est Huang Jue, un artiste qui a mis en place une sorte de comité de soutien pour garder la friche et en faire un quartier artistique qu'on connaît aujourd'hui.
Ce quartier artistique est basé au départ sur les travaux, les œuvres de quelques artistes. D'où viennent-ils ?
C'était des artistes pékinois, mais en fait ça va dans toute l'histoire. Si vous voulez, je vais tout vous raconter l'histoire dans le bon sens. Donc là, on arrive à la gare. Oui. Donc c'est marqué Qiwuyaijan, qui est la gare 751. C'est parce qu'on dit le quartier 798, mais en fait c'est un complexe d'usines. 798, c'est juste une des usines qui a donné le nom au quartier par la suite, mais au début il y en avait plusieurs. Toutes les usines ont été construites avec du matériel qui vient d'Allemagne de l'Est dans les années 50. Et donc ils ont tout fait venir par le Transsibérien. Et quand ils sont arrivés à Pékin, ils ont dû rajouter 15 km de rail pour venir jusqu'ici. Donc là vous avez une vieille locomotive et l'emplacement de la gare, là où arrivait tout de A à Z pour faire les usines.
751, c'est un numéro qui correspond à quoi ? On voit inscrit sur la locomotive et sur ce bâtiment ?
C'était une unité d'usine. Chaque unité avait un numéro différent. Et le code, c'est que quand ça commence par un 7, c'est l'armée. C'est une usine militaire.
Et Titioba, c'est un 7 aussi, non ?
Voilà, c'est un 7 aussi. Il y a 701, 718, mais les plus connus, c'est 751, celui que vous avez ici, qui est maintenant le quartier plus design, qui sert aussi pour tout, semaine de la mode, tous les corporate events de Mercedes, Audi, etc. Et après, du côté de Titioba, c'est plus les grosses galeries, et voilà, artistiques.
Donc, on va dire que l'implantation des artistes dans ce lieu date de combien d'années ? Quelle année, en fait ?
Ça date des années 80. En fait, pour faire une histoire rapide, donc dans les années 50, ils construisent les usines ici, des usines d'électronique. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à l'Allemagne de l'Est, qui était spécialiste dans l'électronique à l'époque. Donc, c'était vraiment de la technologie très pointue à l'époque. D'ailleurs, par exemple, c'est ici qu'ont été faits les haut-parleurs de la place Tiananmen. Ça servait à ce genre de choses à l'époque. Et ensuite, avec les réformes de 78 de Deng Xiaoping, il y a eu une baisse de la production dans ces usines qui ont été petit à petit désertées. Et ça a correspondu à un moment où les artistes se sont fait expulser d'un squat qu'ils avaient au niveau de l'ancien palais d'été, à l'autre bout de la ville. Et du coup, ils sont venus s'installer ici, dans les années 80. Petit à petit, les loyers ont commencé à augmenter parce que les étrangers aussi ont commencé à arriver. Le premier Américain arrivé en 2001, je crois, a installé un café, etc. Le premier café qui a ouvert, c'était en 2003, mais lui, il avait déjà ouvert une petite galerie avant, quelque chose comme ça. Enfin, c'est début 2000 pour les étrangers. Et depuis, les loyers ont flambé et c'est surtout des galeries commerciales et du commerce touristique.
Donc c'est pionnier, on va dire, de l'art contemporain chinois.
Ces premiers artistes qui ont monté l'art contemporain en Chine, qui ont fondé la base de tout ce qu'il peut y avoir aujourd'hui, qui est le mouvement des étoiles, donc les Xinxin. C'est un groupe de jeunes artistes qui, en 1979, ont décidé d'exposer leurs œuvres sur les grilles du Musée national des Beaux-Arts. Et en fait, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'exposer dans le musée, ils n'avaient pas d'espace d'exposition qui leur était réservé en Chine en général et à Pékin en particulier. Du coup, ils ont tout affiché sur les grilles. Et ça a été les premiers. C'est là, Ai Weiwei en faisait partie, par exemple, Ma Decheng, Wang Keping, qui est un artiste que vous pouvez trouver à Paris aujourd'hui. Certains sont restés à l'étranger, comme Wang Keping notamment. Certains autres sont revenus, par exemple Ai Weiwei qui est revenu des États-Unis par la suite et qui aujourd'hui peut aussi surfer sur la vague de l'art contemporain qui est plus accepté, disons.
Donc ces pionniers en fait ont développé aussi un business parallèlement, non ?
En revenant, ouais. En revenant, on peut parler de business. Enfin, de toute façon, il ne faut pas non plus se fixer que par rapport à Tijuba aujourd'hui pour voir l'art contemporain chinois. Clairement pas. Parce que bah, vous pouvez le voir autour de nous, vous ne verrez pas un artiste ici autour de nous. Il y a des vendeurs de bracelets, des touristes qui se prennent en photo, d'autres touristes qui se prennent en photo et encore d'autres touristes qui se prennent en photo. Mais du coup, il y a un business qui est fait autour de ça de toute façon, oui, certes. Après, il reste quand même des coins plus cachés, comme le village de Cao Changdi, dont Lucie vous parlait tout à l'heure, qui vaut vraiment le coup d'être vu.
Alors cette usine, elle est assez immense, hein. Qu'est-ce qu'on y produisait ? Pas de l'électronique, beaucoup d'autres choses, non ?
De l'électronique, il y avait aussi des choses par rapport à l'armée, mais j'ai pas vraiment compris parce que c'est des trucs très très précis, anti-aériennes, ou j'ai pas trop compris. Mais pour moi, ce qui faisait vraiment la spécialité, c'est qu'il y avait un côté un peu comme les familistères en France, dans le sens où, là c'est un familistère à grandeur chinoise, j'ai envie de dire, à échelle chinoise, puisque ça regroupait plusieurs milliers de personnes. Je crois qu'il y avait 20 000 ouvriers à un moment dans le complexe de Tijuba. Et en fait, c'était des ouvriers qui vivaient tous ici. Et ils se retrouvaient, vu que c'était du matériel d'Allemagne de l'Est, ils se retrouvaient avec une culture allemande très forte. C'est-à-dire qu'ils avaient des bibliothèques où ils pouvaient avoir à la fois le petit livre rouge et des classiques allemands. Pour la musique, ils avaient accès à des opéras de musique classique allemande et des opéras révolutionnaires chinois. Ils avaient accès c'était la meilleure clinique dentaire de toute la Chine, parce que c'était du matériel qui était ramené directement d'Europe. Ils avaient des droits des droits sociaux, des loyers très bas, des privilèges, etc. Ouais. Et ils avaient même des courses de moto allemande.
Voilà, donc aujourd'hui, on est dimanche, il fait beau à Pékin. Et, bon, les visiteurs, ouais, chaud même, on peut dire. Et les visiteurs se pressent, c'est la visite familiale. Ah, celui-là, on ne l'avait pas vu encore. Et il ressemble à un personnage de Spider-Man, ouais. On va le prendre en photo, d'ailleurs. Ce serait une bonne idée. Je vais payer cheux. Ouais. OK, how? C'est. Voilà, donc on l'a compris, tout est bon pour faire de l'argent, hein, ici.
Effectivement.
Dans ces vastes espaces, il n'y a pas que de l'art, hein. On a dit les magasins, mais il y a aussi des sociétés qui produisent beaucoup d'autres choses. C'est une base intéressante pour les firmes.
Il y a un Tijuba centre, qui est vraiment où il reste l'architecture Bauhaus qui a été préservée, etc. Mais autour, effectivement, il y a des industries, des grosses firmes qui sont installées. Mais à l'intérieur même, dans le centre, il y a vraiment une partie artistique et artisanale, avec des petites boutiques ou un peu de design, mais des petites boutiques surtout. Et après, il y a le côté vers Chiwuya, où on était tout à l'heure, où c'est vraiment des grosses corporations avec Mercedes, etc. Je sais, là, ouais, il y a vraiment.
J'ai vu quelque chose d'assez étonnant, c'est BMW, par exemple, qui a un parking réservé au BMW, en plein centre.
Ça m'étonne pas du tout, je l'ai pas vu, mais ça m'étonne absolument pas. Ouais. Absolument pas.
Je trouve ça un concept intéressant. En fait, vous avez cette voiture-là, nous, on vous accueille, vous pouvez vous garer quand vous voulez. Voilà, donc là, on voit des affiches où sont présentées toutes les expositions. Il y en a beaucoup en simultané d'expositions ?
Tout le temps. Tout le temps. Il y a à boire et à manger. C'est pas toujours très, très très avant-gardiste, etc. Mais il y a souvent des choses intéressantes. Et puis de toute façon, il faut se rappeler qu'en France, le système galerie privée et musée public fonctionne pas du tout ici. C'est-à-dire qu'il y a des galeries, là vous avez UCCA derrière les gros dinosaures rouges, qui est une fondation en fait, et donc c'est une galerie qui sert de musée aussi, parce que bon, c'est vrai qu'il y a encore un gros manque au niveau des musées d'art contemporain en Chine. Donc il y a des grosses galeries, des grosses fondations privées, du mécénat qui pallient un peu aussi à ça. Donc il y a souvent des expositions très intéressantes.
Ouais. Vous avez repéré des lieux sympas à conseiller aux auditeurs?
Y a quelques galeries qui me semblent incontournables, comme la Long March, là où on va maintenant. Il y a UCCA, qui est vraiment très bien, la galerie Continua. De toute façon, les galeries très intéressantes ici sont aussi souvent celles qui ont déjà une, pas une succursale, mais qui existent déjà dans deux ou trois pays, etc. Après, encore une fois, Chichibu, c'est bien, il y a des choses qui se passent. Mais il faut quand même aussi aller chercher un peu plus loin quand on veut trouver quelque chose. Il faut savoir aussi que c'est des loyers exorbitants aujourd'hui. Personne n'est propriétaire, en fait, c'est l'armée qui possède tout l'espace et il y a une société de gestion qui s'occupe de les louer. Donc en fait, il n'y a pas vraiment... Enfin, pour faire la moindre exposition, il faut payer des 1000 et des 100 et du coup, bon, c'est pas... Mais on va rentrer là-dedans, vous allez voir, c'est rigolo.
Donc la longue marche.
Ouais. J'aime bien cet espace parce qu'en fait il est immense et même quand les pièces artistiquement me plaisent pas forcément plus que ça, ils jouent toujours avec l'espace. Là c'est énorme, décrivez-le, vous y arriverez mieux que moi.
Voilà donc un paysage on va dire avec des herbes, il y a des petites buttes, on peut marcher, ce sont des cailloux blancs par terre, on peut marcher dessus. Étonnamment en Chine d'ailleurs on peut davantage toucher les œuvres, pas partout mais qu'en France par exemple. Je vois des enfants qui touchent sans trop de problèmes dans les musées.
Oui, des fois ça pose un peu des problèmes à l'artiste, mais il n'est pas toujours au courant disons.
Donc voilà, là c'est la longue marche, donc il y a plusieurs sentiers, on a le choix de l'itinéraire. Et on a des décors qui varient, des plantes, je crois que c'est ginseng ça.
Ouais. Ouais.
Et puis aussi des symboles de Bouddha, très kitsch, ouais, très kitsch. Donc l'idée générale, c'est la longue marche.
Je pense pas, parce que c'est juste une exposition parmi tant d'autres. Mais encore une fois, ils ont vraiment tout le temps, soit ils remplissent l'espace, soit ils le vident complètement. Et il y a une toute petite œuvre au milieu d'un espace, comme un grand aquarium. Et j'aime bien, ils s'amusent avec. Mais après, là, l'exposition n'a pas de rapport avec la longue marche en tant que telle.
Mais bon, si on appelle ça la longue marche, ça peut aider à l'installation?
Possible, ouais. C'est vrai que... Si, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup d'expositions où on propose de faire de la randonnée, et là, c'est le cas.
Donc, ces plantes sont des vraies plantes à voir, hein?
Ouais. C'est vrai. Non, tout est vrai.
Et la lumière artificielle, mais bon, l'herbe essaye de survivre. Hein,
Mais ça fait un moment qu'elle est là. Enfin, moi, je suis déjà venue il y a 3 semaines, 1 mois, quelque chose comme ça, elle était déjà là.
On hésite à avancer, en fait. On ne sait pas si on a le droit ou pas. C'est pas indiqué.
À mon avis, on peut y aller. Hein.
Ouais. Nous, on l'a fait, hein, en tout cas.
Ouais, et puis en Chine, tout est bien.
C'est vrai que c'est plus simple qu'en France, parfois, d'accéder à des lieux.
Oui, pour certains, dans une certaine mesure. Ouais. Disons que on fonce.
Quand on nous dit stop, stop, c'est qu'il est déjà trop tard.
Exactement.
Donc, en fait, ce genre de lieu est relativement peu fréquenté. Il n'y a pas grand monde, là, on est les seuls. Est-ce que ça vaut le coup, en termes d'investissement, vous parliez des coûts exorbitants, d'installer ce type de choses aussi longtemps, pour soit l'artiste, soit le producteur de l'expo?
Encore une fois, ce genre d'espace, c'est un but commercial derrière, mais ça peut être des gens qui sont à perte dans un espace, il n'y a pas de problème parce qu'il y a une grosse fondation ou un gros mécène derrière en fait. Ben c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en France, parce qu'en France, si on rentre dans une galerie, dans un espace privé, soit il faudra payer une entrée, soit il faudra que des œuvres... ils ne se permettront jamais de projeter une image de... C'était 10 cm de diamètre la dernière fois, dans un espace qui est immense, enfin, dans un espace vide. C'est des choses qu'une galerie ne pourrait pas faire en France, parce qu'il y a toujours une vocation de commerce. Alors que là, c'est vrai que le fait qu'il faille... pallier à ce manque de musées d'art contemporain, etc., fait qu'il y a des fondations privées
Donc là, un chanteur qu'on peut écouter en direct. Il y a beaucoup de chanteurs hein, en fait en Chine, dans les bars, partout. D'assez bonne qualité d'ailleurs en général.
C'est comme pour Chi Dubaï, à boire et à manger.
Bon, alors il n'a pas voulu chanter, il joue, bon, c'est déjà bien. Hein. Il y a eu la fête de la musique le 21 juin. Ce lieu était un peu investi par la musique et beaucoup de lieux à Pékin.
Quelques lieux, oui. Ce lieu, non. Enfin, il y a eu uniquement l'ouverture de l'œuvre dont vous a parlé Lucie tout à l'heure, qui a eu lieu à Yuanfen. Mais sinon, sur Chi Dubaï, il n'y avait rien d'autre. La plupart se trouvaient plus en centre-ville, dans la vieille ville, au niveau de Gulo. Il y avait aussi un peu à Liang Matiao et Tianmen, mais essentiellement Gulo, j'ai envie de dire, ouais. Et rien dans la rue, surtout des concerts dans des bars.
Donc en Chine, à Pékin notamment, on est toujours en travaux.
toujours.
On peut vivre facilement à Pékin. C'est une île qui est relaxante ou speedante, comment on peut dire.
Ouais, c'est stressant, mais en même temps, les Chinois sont trop mignons. Donc.
J'ai l'impression qu'ils sont plus cool qu'on ne dit en France. Ce sont des gens qui ont pas l'air forcément plus pressés que d'autres, notamment les Parisiens qui sont toujours agités dans le métro ou ailleurs.
Ouais. Non, c'est vrai que dans le métro, ils marchent super lentement. Mais pour le coup, je dois être parisienne parce que je trouve que ça va trop lentement.
Par contre, il y a du monde, ça, c'est vrai.
Oh, si vous voulez, on peut aller voir par là, il y a un avion géant. Ah oui, les voitures aussi ici, c'est réglementé. Même les personnes qui ont le droit de se garer, je crois qu'il y a un jour où elles n'ont pas le droit de se garer dans Chi Dubaï. Chaque voiture, il y a un jour où elle n'a pas le droit de se garer. Et certains taxis ont le droit de rentrer, pas d'autres, je crois. Il y a quelque chose comme ça.
Selon les numéros de plaque.
Il y a quelque chose... J'ai pas de voiture, donc... C'est difficile d'avoir une voiture pour les étrangers.
Il n'y a pas forcément besoin.
Moi, j'ai un vélo électrique, donc tout va bien.
Ça aussi, c'est une belle invention. On ne voit pas trop ça en France, hein, le vélo électrique.
Pas assez.
Pourquoi ça ne marche pas en France et que ça marche en Chine? C'est plus facile en Chine? Il y a des lieux de rechargement ou...
Je sais pas, parce que ça coûte pas cher ici, tout simplement, je pense.
On le met sur sa prise de courant, c'est tout?
Ouais. Voilà. Et puis on peut même détacher la batterie, donc c'est un peu lourd, mais c'est très pratique.
C'est pas bruyant en plus. Hein.
Pas du tout.
On les entend pas arriver, hein. C'est un peu le risque d'ailleurs.
J'avoue. J'ai tué personne jusqu'ici.
Tout va bien. Donc là, c'est un espace, on va dire, carré.
De l'avion.
Ouais.
La Place Beijing, c'est une galerie très connue ici. On peut aller voir si vous voulez.
Donc je vois Mao Yan. Il est célèbre, Mao Yan.
Ouais. C'est pas mal du tout. Mais on va aller regarder. Je sais pas si c'est toujours ouvert. Parce que, encore une fois, ils ont l'air en travaux. Je pense qu'on peut dire ça
partout,
tout le temps,
ouais, là.
Mais ça reste quand même agréable. Ouais. Les gens ont beau râler que c'est super... touristique, que les gens marchent super lentement dans Chi Dubaï, etc. D'avoir des zones piétonnes, etc. C'est pas si commun que ça.
Donc c'est un endroit où il y a pas mal d'étrangers. Tout ce secteur-là, en général, il y a les ambassades pas loin.
Pas très très loin, mais c'est pas non plus juste à côté. En fait, le truc de Chi Dubaï, c'est que personne n'y habite. Donc c'est vraiment un peu un parc avec des galeries, des boutiques, des vendeurs de glace. Ça peut faire peur aux auditeurs peut-être, mais c'est comme ça. Mmh. Moi, ce que j'aime bien quand même, c'est qu'il y a beaucoup de touristes chinois. Des fois, il y a des collégiens qui viennent pour des vacances scolaires, des familles qui viennent, mais du sud de la Chine ou du milieu de la Chine, et qui viennent et qui au final vont se retrouver directement en contact avec de l'art contemporain. Donc quelque part, je pense que ça rattrape le coup que ce soit un peu disneylandalisé, si c'est comme ça qu'on dit, je crois. Donc voilà.
Là, avec du vent aujourd'hui d'ailleurs, ça fait du bien un peu de frais. Hein.
Trop agréable.
écoutez Bienvenue au 798, un reportage de René Lavergne à Pékin, juin 2013. Un grand merci à Lucie Parola et Julia Proust, françaises vivant en Chine et qui ont suivi l'évolution de cette zone d'expression artistique unique en son genre.
为我情绪着愿望，而我却不能陪在你身旁。世事总是无常，真心只能相望。世事总是无常，爱人啊，请你原谅。 你是在萧瑟的风中，而我却不能改变流浪的方向。当你在冰雪里刻画着我的模样，而我却不能为你穿上楚楚衣裳。 世事总是无常，真心只能相望。世事总是无常，爱人啊，请你原谅。世事总是无常，真心只能相望。世事总是无常，爱人啊，请你原谅。 在萧瑟的风中，而我却不能改变流。